Merci, bonjour. Je m'appelle Bernard Hidveng, je suis directeur du réseau d'enseignement prioritaire, quoi, en charge du réseau d'enseignement prioritaire du canton de Genève, donc en Suisse, pas très loin d'ici. Et quand je me suis inscrit, on m'a demandé d'en dire quelques mots, ce que je vais tenter de faire maintenant, en disant tout d'abord que, avant d'être à la direction de l'enseignement primaire, j'étais instituteur, enseignant en maternelle essentiellement, quoi, maternelle et CP chez vous, donc pour les enfants de 4 à 8 ans. Je dirais quelques éléments du contexte pour que vous puissiez voir un peu dans quel contexte s'est mis en place le réseau d'enseignement prioritaire. Je le définirai ensuite et puis je donnerai quelques résultats que l'on a pu avoir après quelques recherches qui ont été effectuées sur la mise en place du réseau d'enseignement prioritaire. Tout d'abord, deux mots sur le canton de Genève, donc une petite superficie de 182 km², c'est plus petit que Lyon sans doute, un peu moins d'un demi-million d'habitants. Et puis, par rapport au système politique français, chaque canton suisse a l'entière compétence en matière de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons 26 ministres de l'éducation chez nous, avec une coordination au niveau national et au niveau régional, au niveau linguistique, mais qui va vers une harmonisation, mais non pas vers quelque chose qui est de l'ordre de l'imposition par Berne. Donc on a cette harmonisation qui a été votée par le peuple il y a quelques années, dans une volonté de faire que les systèmes éducatifs aient une certaine cohérence, que ce soit en termes d'objectifs d'apprentissage et également ne serait-ce que d'âge d'entrée à l'école, qui était différent jusqu'à il y a encore quelques années. Même encore aujourd'hui, certains cantons n'ont pas les mêmes âges d'entrée à l'école. Quelques mots sur le contexte social du canton de Genève. Donc depuis les années 90, vous traduirez, on a vu une aggravation des inégalités, certes, sans doute avec des situations très différentes, plus favorables à Genève que dans une bonne partie de la France, mais quand même avec un accroissement de ces inégalités, avec une augmentation assez importante de la population, un revenu cantonal, donc au niveau de ce qui se gagnait dans le canton, de très important, donc plus de 50%, mais par contre, un fort accroissement des inégalités sociales, avec une augmentation également de la dette publique du canton de Genève, donc avec toutes les tensions qui sont liées à ça, en termes de priorité ensuite, en matière de finances publiques, l'éducation n'étant pas forcément toujours dans les priorités, à l'heure actuelle particulièrement. On a, au niveau du contexte scolaire, une grande évolution des effectifs scolaires avec une importante diversification de provenance particulièrement. On a également, comme je disais tout à l'heure, une stagnation des dépenses publiques pour l'enseignement. Il y a quelques années, le canton de Genève était probablement le canton suisse qui dépensait le plus en matière d'éducation, ce qui est nettement plus le cas maintenant. Et puis, on a des effets clairs sur l'aggravation des inégalités sociales. Et puis, quand on observe la situation au niveau de notre petit canton, aux résultats aux épreuves cantonales, qui sont l'équivalent, mais évidemment une toute petite échelle de vos épreuves nationales, on a une corrélation entre les différentes le milieu socio-économique des familles représentées dans les écoles et puis les résultats de manière générale, évidemment avec des différences entre les écoles et les établissements scolaires. Juste ici, ça date de 2008, la situation des élèves en fin de 6e, à ce moment-là on a changé de numérotation, mais à ce moment-là c'était 6e, donc les élèves de 12 ans. Au niveau des établissements du réseau d'enseignement prioritaire, nous avions, j'arrive plus à lire là, 20% des élèves qui étaient en retard, donc qui avaient redoublé une année dans les établissements du REP et 13% dans les établissements qui n'étaient pas du réseau d'enseignement prioritaire. 4 ans plus tard, la proportion a baissé, on est à 16% aujourd'hui dans les établissements du REP d'élèves qui ont redoublé une année ou deux, la plupart une année. Pour pour qu'un établissement puisse rentrer dans le réseau d'enseignement prioritaire, il y a deux éléments importants. C'est le critère de population scolaire, donc 55% de plus de 55% de population défavorisée, et également un engagement de l'équipe enseignante dans le projet pour la durée de 4 ans aujourd'hui. Donc on a ces deux éléments qui doivent être mis en œuvre pour que l'établissement puisse être dans le réseau d'enseignement prioritaire. On a pris une analyse qualitative des quelques établissements qui sont entre 50 et 55% de population défavorisée. Évidemment, ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Bougarel résonnait un peu à mes oreilles par rapport à la priorité, savoir que la tendance, la volonté des enseignants, des directions d'établissement serait qu'on élargisse encore pour que les ressources puissent être aussi partagées avec les autres. Pour l'instant, la volonté n'est pas dépasser 20%, on verra tout à l'heure, c'est ce que nous avons, 20% des établissements qui sont résolutions prioritaires. Peut-être que c'est même trop, c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée par rapport à ça. Donc on a ici, juste pour voir, c'est la situation des établissements scolaires avec un établissement particulier dans une commune suburbaine qui était à pas loin de 70% de population défavorisée. Là, je vais passer, parce que ce ne sera pas très intéressant pour vous, dire comment le réseau d'enseignement prioritaire s'est créé. C'est donc en 2006 que ce réseau s'est créé dans une école du canton, dans un quartier suburbain à Aunay. L'école la plus défavorisée en termes de population scolaire. Mais il faut également dire que en parallèle, s'est développée toute une réorganisation de l'enseignement primaire avec des allocations différenciées en fonction des populations, pas seulement au niveau du réseau d'enseignement prioritaire, mais pour l'ensemble des établissements, avec la mise en place de directeurs d'établissement qui ont les compétences, je pense, les compétences et des inspecteurs chez vous et des directeurs d'école. Donc, ils ont les deux compétences. Ils ont aussi les compétences hiérarchiques par rapport aux enseignants et pédagogiques par rapport au suivi et au pilotage des projets d'établissement. Et la mise en place de conseils d'établissement également. On a donc une entrée progressive d'un certain nombre d'établissements jusqu'en 2011, où nous avons l'entier aujourd'hui 17 établissements sur 89 qui sont dans le réseau d'enseignement prioritaire, soit 19% des élèves concernés. Et puis en 2011, mais de manière pour l'instant encore pas très développée, le réseau d'enseignement prioritaire qui se développe au secondaire 1, le cycle d'orientation, comme il s'appelle chez nous. Deux mots sur les objectifs. Le premier objectif, c'est de lutter contre l'échec scolaire avec trois niveaux de réseau. Au niveau de l'établissement scolaire, travailler entre les différents professionnels, qu'ils soient enseignants, personnel éducatif et également avec les collectivités locales. Un réseau avec l'ensemble des établissements scolaires, là, qui regroupe essentiellement les directions d'établissement, également, j'en parlais tout à l'heure, des éducateurs sociaux qui travaillent aussi en commun pour pouvoir partager leurs expériences, et puis également un réseau entre le canton, qui est donc en charge de l'éducation, et les communes, qui sont en charge d'un certain nombre de prestations sociales et de prestations d'organisation des bâtiments scolaires notamment. Également, l'objectif de favoriser l'intégration des familles qui ont des difficultés sociales et économiques, en améliorer leurs conditions de vie. On verra après de quelle manière ça s'est fait. C'est en train d'essayer de se faire, disons, plutôt. Donc, un établissement qui rentre dans le réseau d'enseignement prioritaire a une équipe d'enseignants volontaires qui s'engage dans la durée. C'est un élément qui a été particulièrement voulu par notre ministre de l'Éducation, parce que l'analyse qui a été faite au niveau d'autres systèmes d'éducation prioritaire, c'était que une des grosses problématiques était le turnover des enseignants, et que ça, c'était un élément contre lequel ils voulaient absolument lutter, donc avec un engagement dans la durée par rapport à ceci. Une allocation de ressources différenciées, donc On a un enseignant pour 15 élèves, mais c'est pas un titulaire de classe. Hein. C'est l'ensemble du corps enseignant qui est pour 15 élèves. Donc on a des enseignants généralistes titulaires et puis on a également des maîtres spécialistes et des enseignants qui sont en charge du soutien pédagogique. Avec une différence de 3 unités avec les établissements, la moyenne des autres établissements qui ne sont pas dans le réseau d'enseignement prioritaire. Donc ça nous donne environ 18,5 d'élèves par classe en moyenne contre 20,75 pour les autres établissements. Et puis, c'est peut-être ce qui est peut-être le plus particulier, c'est l'engagement d'un éducateur social qui jusqu'alors était réservé au secondaire 1 chez nous et qui depuis 2006 s'est développé également dans les établissements primaires du réseau d'enseignement prioritaire. Que doit faire un éducateur? C'est essentiellement travailler avec les enseignants à la mise en place, l'amélioration du climat scolaire pour qu'il soit propice, le plus propice possible aux apprentissages, et puis un soutien éducatif et une relation avec les familles. Il est également l'interface avec les différents services sociaux que l'on peut avoir, que ce soit au niveau du canton, soit au niveau des communes. Ce qui a pu être observé dans ce que faisait un éducateur, c'est pas mal d'activités de régulation, de conflits entre les élèves, d'intervention auprès des familles, parfois à la maison, parfois à l'école, parfois même dans un milieu, dans un endroit différent, qui peut être le café du coin par exemple, et puis aussi une intervention assez soutenue avec les enseignants dans la relation famille-école, avec un autre regard qui est souvent été apprécié, mais qui en même temps parfois est pas vraiment accepté par certains enseignants. Il faut aussi bien voir les choses que quand on, vous le savez sans doute, quand on travaille avec différents métiers, mais c'est pas forcément évident de partager, d'accepter le regard de l'autre par rapport à ça. Ce qu'on a pu observer comme impact, c'est une amélioration du contact avec les familles, entre l'école et les familles, des familles qui se sentaient plus libres de venir à l'école que d'aller voir l'éducateur ou l'éducatrice plutôt que d'aller voir l'enseignant, en tout cas dans un premier temps. Un effet positif sur le climat d'école également, qui est difficile à mesurer, mais qui était reconnu par les différents acteurs. Et puis un développement d'un regard différent sur les élèves, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que nous avons là la possibilité d'avoir un autre métier, une autre formation, des gens qui ont une autre formation qui amène justement ce regard différent sur les élèves et sur leur comportement, sur leurs interactions. Puis quelques projets ont également été développés, notamment un projet qui est intéressant, mais je pense que j'ai aussi lu un certain nombre de comptes rendus de projets similaires en France, qui sont le projet de l'école des mamans, qui est un projet d'apprentissage du français pour les mamans d'origine étrangère qui ne sortent pas de chez elles, mais qui le fait que l'école, l'apprentissage du français a lieu dans l'école, leur permet de venir apprendre le français avec d'autres mamans et dès lors avoir petit à petit une intégration dans la vie de l'école d'une part et dans le quartier dans un deuxième temps. Les éducateurs ont écrit un compte rendu de leurs actions qui est ici sur le que j'ai mis en lien internet. Je crois que si j'ai bien compris comment fonctionne le petit truc qu'on nous a donné, je pourrais le poser peut-être tout à l'heure sur le voilà. Donc ce qui fait que si vous avez envie d'aller voir cette ressource, vous pourrez aller la voir. Et puis également au niveau du projet, la chance que l'on a au niveau d'un canton, c'est que, et particulièrement en canton petit comme Genève, c'est d'avoir la possibilité dans un très petit territoire d'avoir toutes les compétences pour chercher à développer non seulement des éléments éducatifs, mais également des éléments urbanistiques, des éléments sociaux, etc. Donc on a eu là une volonté des différents pouvoirs publics d'allier leurs efforts pour chercher à limiter, à lutter contre les inégalités. Et avec le vote au Parlement, il y a un peu plus d'une année, d'une loi qui s'appelle politique de cohésion sociale en milieu urbain, qui est l'équivalent de la politique de la ville ici en France. Les engagements qui ont été pris entre les différents partenaires touchent le logement, le cadre de vie, la sécurité des enfants, l'éducation, l'intégration et la promotion de la santé. Au niveau des résultats, de ce qu'on a pu observer après quelques années, 6 ans maintenant, le service de la recherche en éducation du canton de Genève a suivi le projet, a rédigé un certain nombre de rapports, vous aurez les références ici. Ce qui ressort, quelques points qui ressortent, c'est que d'une part la direction de proximité est considérée, en tout cas dans le réseau d'enseignants prioritaires, comme un atout par les différents partenaires, qu'ils soient les enseignants, les élèves, pas trop eu la parole, mais en tout cas les enseignants et les parents, et également les collectivités locales. L'éducateur est salué unanimement. Je crois que c'est assez rare d'avoir une mesure prise comme ça qui a été aussi unanimement reconnue, même après 6 ans. Donc c'est pas que le début qui était extraordinaire, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, même s'il est questionnant par certains côtés, le risque de déresponsabilisation des enseignants par rapport à l'aspect éducatif reste, donc nous devons rester attentifs à ceci. Au niveau des résultats eux-mêmes, il est difficile d'avoir véritablement encore des résultats chiffrés, je dirais, d'amélioration des compétences des élèves. Ce qui était pu être observé, c'est que les différences, que les difficultés des élèves sont similaires à celles des autres établissements, mais de nature plus intense que dans les autres établissements, que ceux du réseau d'enseignants prioritaires. Ce qui ressortait également de ces recherches, c'est que l'accent devait être particulièrement mis sur l'enseignement de la langue, mais on a pu l'observer dans l'ensemble des projets d'établissement, des établissements du REP, des objectifs touchaient cette thématique. On a aussi pu observer que il y a eu une volonté dans la plupart des établissements de recentrer l'ensemble, quoi, une bonne partie des moyens dans les premiers degrés, c'est-à-dire pour les enfants de 4 à 8 ans, et qu'il semblerait, selon les premiers résultats, que ces éléments aient porté leurs fruits en termes de résultats aux épreuves de 4e qui correspondent aux élèves de 8 ans. Et puis quand on compare les résultats de fin de 8e année, selon 2 recherches différentes, on a pu observer que les enseignants n'avaient pas tendance à surnoter leurs élèves. Quand on regarde les résultats aux épreuves cantonales et les résultats de l'année, eh bien il n'y a pas de meilleurs résultats donnés par les enseignants que les résultats aux épreuves cantonales. Donc là, a priori, on peut dire qu'il y a pour l'instant qu'il n'y a pas eu d'adaptation à la baisse des exigences. Puis la recherche se poursuit pour les 4 prochaines années avec une analyse toujours et un suivi des compétences des élèves depuis 2006. Ce qui est aussi important, c'est qu'il va essayer, quoi, les chercheurs vont essayer de décrire un petit peu mieux les caractéristiques des enseignants et leurs pratiques pédagogiques. Et puis également de pouvoir voir ce qui se passe dans 2 ou 3 établissements contrastés, parce que quand je parle des résultats généraux, on peut également dire qu'il y a des établissements qui s'en sortent mieux que d'autres, et c'est d'essayer d'analyser le pourquoi certains s'en sortent mieux en termes de résultats scolaires. Et puis voir également ce que deviennent les élèves après l'enseignement primaire, l'année qui suit et les années qui suivent aussi d'orientation, donc l'équivalent du collège chez vous. Et puis analyser un peu plus, avec un regard un peu plus extérieur, le travail des éducateurs et les interactions qu'ils ont avec l'équipe enseignante.